Vous écoutez France Culture. Les matins de France Culture, Marc Voinchet.
Après le dépouillement donc de 99% des bulletins de vote en Israël, le Likoud du Premier ministre sortant, Benjamin Netanyahou, obtient au moins 29 sièges à la Knesset devançant l'union sioniste d'Isaac Herzog. Et oui, Benjamin Netanyahou, qu'on appelle le magicien, eh bien la magie a joué. Il a déjoué tous les pronostics en remportant largement hier les élections législatives anticipées en Israël qu'il avait déclenchées. Notons tout de même qu'il n'est pas pour autant réélu puisqu'il doit désormais former un nouveau gouvernement de coalition, élections législatives en Israël, tandis que tout le monde annonçait peut-être, qui sait, une victoire de la gauche, un balayage du Premier ministre actuel. Eh bien non, il ne s'est rien passé de tout cela, sachant qu'il y a aussi désormais un homme qui sera peut-être le troisième homme dont nous parlerons tout à l'heure avec nos invités, qui fera le roi, le faiseur de roi, Moshe Kalon, ancien du Likoud. Pour parler de tout cela, nos invités aujourd'hui, Ofer Bronstein, bonjour.
Bonjour.
Président du Forum international pour la paix, ancien conseiller du Premier ministre israélien Yitzhak Rabin. Frédéric Ancel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes aujourd'hui maître de conférence à Sciences Po Paris, géopolitologue français. Et puis sachez qu'en deuxième partie, nous rejoindrons au téléphone depuis Tel Aviv, Eli Barnavi. Et dans quelques instants, le politologue Emmanuel Navon. Alors, figurez-vous qu'hier, dans les conférences de rédaction, diverses et variées, messieurs, Ofer Bronstein et Frédéric Ancel, tout le monde se disait, bon, les sondages israéliens annoncent sans doute un ballottage, en tout cas très fort, qui c'est un désaveu de Benjamin Netanyahou. Eh bien que quick, pas du tout. Au contraire, il est très largement et plutôt confortablement réélu. Fallait-il ne pas croire? Bon, c'est ce qu'on enseigne en général, vous me direz, aux étudiants de journalisme, hein, mais qu'on ne s'applique pas forcément à nous-mêmes chaque fois. Fallait-il donc ne pas croire ces fameux sondages, Ofer Bronstein?
Ben oui, je pense que les sondeurs en Israël doivent aujourd'hui se remettre en question sérieusement, parce que presque aucun sondage n'avait prévu.
Cela dit, ils font le coup à chaque fois, hein, quasiment.
Dans certains cas, la dernière fois aussi, ils se sont complètement trompés sur le parti de Yair Lapid, par exemple, qui a eu 19 mandats alors qu'il lui donnait 12. C'est ce qui lui est arrivé aujourd'hui, contrairement aux élections de 2013. Mais là, les sondeurs se sont trompés, les médias israéliens se sont trompés. L'ambiance dans la rue, et encore hier et avant-hier à Tel Aviv,
n'était pas... Vous descendez de l'avion quasiment.
Hein. n'était pas du tout la même. Bon, il faut se réveiller à une nouvelle réalité. Mais comme vous l'avez signalé, le grand défi maintenant, c'est pas uniquement pour M. Netanyahou d'être à la tête de la plus grande composition, du plus grand parti, mais c'est de pouvoir, et ça va pas être du tout évident, de pouvoir construire une coalition. Ce qui se dessine maintenant, c'est une coalition de droite et d'extrême droite. Moi, je prévois, malheureusement, que, dû au système électoral israélien, à la tribalisation de la société israélienne, à sa division qui... Et on le voit, elle est très divisée, des élections dans 2 ans. Vous savez, en 35 ans, l'âge moyen d'un gouvernement en Israël est de 2 ans et demi. C'est une instabilité politique insupportable pour un pays qui doit faire face à tellement de défis.
Alors, enfin, oui, mais ça pourrait paraître paradoxal ce que vous dites, parce que ça fait quand même déjà 9 ans, après tout, que Benjamin Netanyahou est au pouvoir et qu'il va y rester encore.
9 ans où il termine jamais son mandat. Ouais. Les dernières élections étaient en 2013, il y a 2 ans.
Oui, c'est lui qui a provoqué, il faut le rappeler, ces élections anticipées. Là, Benjamin Netanyahou, surnommé, dit le magicien, Frédéric Ancel.
Ben oui, sur le plan oratoire, sur le plan rhétorique, sur le plan tactique, de la tactique politique, mais même au fond de la tactique géopolitique, Netanyahou est un véritable leader, c'est un rhéteur. Alors on peut le regretter, mais j'ajouterais que il ne va pas entamer la 103e, mais son 4e mandat. Ouais, 4... Il est arrivé au pouvoir déjà en 96, et pas face à n'importe qui, face à Shimon Peres. Donc à chaque fois, il n'est pas très bien élu, pour être honnête. D'ailleurs, là, il améliore considérablement son score, entre parenthèses. Hein.
Mais c'est sa meilleure élection, oui, si je ne m'avance pas trop, mais sa meilleure élection, là.
Ah, vous avez raison, c'est son meilleur score. Hein. Ouais. Donc, si vous voulez, qu'on l'ait donné plus ou moins perdant, plus ou moins ex aequo avec Herzog, le fait est que en face, on ne parvient pas au sein de la gauche israélienne, et d'ailleurs au sein d'une partie de la droite, à déloger Netanyahou. Hein, c'est un véritable tacticien. On peut considérer que son programme est extrêmement faible. D'ailleurs, c'est un programme assez largement attentiste sur le dossier israélo-palestinien, ou voire même immobiliste. Sur le plan économique, c'est un libéral qui ne plaît pas à beaucoup de gens. Néolibéral, voire même ultralibéral, qui ne plaît pas à beaucoup de gens. Et on a bien vu il y a quelques années les mouvements des indignés. Il y a aujourd'hui une espèce de lumpen prolétariat en Israël qui est extrêmement remontée contre Netanyahou. Et le résultat, c'est que personne ne parvient à capitaliser sérieusement sur l'exaspération d'une partie de l'opinion contre Netanyahou. Aujourd'hui, les chiffres le démontrent avec éclat.
Mais il gagne, selon vous, au fond, sur quelle base, Benjamin Netanyahou? Parce que, notamment, les crèches sont gratuites, ou parce qu'il a plutôt continué de dire qu'il fallait se méfier terriblement de l'Iran, des non-démocrates arabes et du danger autour d'Israël?
Oui, bien sûr, il a joué ou surjoué la posture du rempart. Et on sait à quel point en Israël, ce qu'on appelle souvent le syndrome ou le complexe de Masada, ou voire le syndrome d'Auschwitz, c'est-à-dire le fait d'être systématiquement isolé, d'être menacé par énormément d'ennemis, de ne pas être si soutenu que cela par certains alliés, je pense évidemment à Obama, tout ça, il l'a joué, il l'a surjoué, et encore une fois, force est de constater que l'une des variables de prise de décision dans l'isoloir de beaucoup d'Israéliens, dans les derniers jours, peut-être dans les dernières heures du vote, ça a été malgré tout quelque chose qui, à leurs yeux, est plutôt rassurant. J'ajoute un point que M. Herzog est quelqu'un de tout à fait sympathique et d'extrêmement intelligent, qui ne dispose pas de cette aura.
Alors, mini pour qui est M. Herzog, hein, parce que
C'est d'abord le fils, quand même. C'est le fils et le neveu. Voilà. C'est-à-dire que le Herzog est un personnage très sympathique, qui a déjà eu d'ailleurs des fonctions officielles, y compris au sein des renseignements israéliens.
Il a été ministre.
Oui, il a été plusieurs fois ministre. Alors, sans que ce soit de grandes fonctions régaliennes, il a été ministre plusieurs fois. Il est le fils de quelqu'un qui fut le président de l'État. Tout cela est très bien. Manifestement, pour une campagne électorale, ça ne suffit pas. Il ne dispose pas de suffisamment d'aura sur sa propre personne, sur son propre nom, tout respectable soit-il, face à un véritable combattant ou un animal politique qu'est définitivement Netanyahou.
Permettez-moi
Je vous en prie, Ofer Bronstein.
Netanyahou n'a pas encore gagné. Quand on parle de grande victoire de Netanyahou, il faut remettre les pendules à l'heure.
Il se donne trois semaines maximum pour faire son nouveau gouvernement.
Non, mais n'oubliez pas que même si, au bout de compte, il a 30 mandats, ça représente que 25% de l'électorat israélien, dû au système électoral israélien. Donc on ne peut pas parler d'une énorme victoire.
Qui est entièrement à la proportionnelle, il faut le rappeler.
Qui est entièrement à la proportionnelle. Il va devoir aujourd'hui faire des conjugaisons et monter un gouvernement qui me paraît presque impossible. Ou alors ce sera un gouvernement d'extrême droite, et là il va prendre le risque d'un isolement encore plus grand d'Israël au sein de la communauté internationale. Mais je crois que quand même il s'est passé quelque chose. Netanyahou a gagné sur les voix de la droite et de l'extrême droite. Il n'a pas du tout réussi à capter ni les voix du centre, ni les voix de la gauche. Il a siphonné des voix à son ami.
Herzog fait dire un bon score. Hein,
les travaillistes ont progressé de 15 mandats. Ils ont 124 aujourd'hui. Netanyahou les voix de l'extrême droite israélienne, celle de Lieberman et celle de Bennett. C'est dans le centre que ça va se jouer maintenant.
On posera la question tout à l'heure aussi à Eli Barnavi. Contrairement à quelques analyses un peu rapides, il ne faut pas enterrer trop vite, malgré ce résultat, ou grâce à ce résultat, la gauche israélienne, Ofer Bronstein.
Absolument pas. Elle a fait un score. Elle est passée de 15 à 24 mandats. Elle a donné un projet sérieux de société aux Israéliens. Elle est la deuxième force politique en Israël. Il y a deux cas de figure qui vont être d'ailleurs très intéressants, puisque la troisième force politique, et ça c'est la grande surprise ces élections.
Voilà, on va en parler dans un instant, mais d'abord.
C'est la force arabe. Ouais. Mais si Netanyahou fait appel aujourd'hui aux travaillistes et qu'il va vouloir essayer de monter un gouvernement d'union nationale, on va se retrouver dans un cas de figure très intéressant pour la société israélienne. C'est que le chef de l'opposition va être le chef des partis arabes, et le chef de l'opposition, comme vous le savez, en Israël, a un statut spécial. Il est protégé par les services de renseignement. Il doit être concerté une fois par mois par le gouvernement. Ça va être très intéressant si Netanyahou fait appel aux travaillistes pour créer un gouvernement d'union nationale, ce qui me paraît aujourd'hui peu probable, et j'espère qu'ils refuseront.
Alors, la gauche pas morte, Frédéric Ansel?
Non, mais la gauche progresse. Ofer a parfaitement raison. Malgré tout, sur le plan arithmétique, Netanyahou a les coups des franches pour bâtir son gouvernement de coalition. Ofer a tout à fait raison, ce sera vraisemblablement une équipe d'ailleurs qui ressemblera à la sortante et peut-être même plus nationaliste que celle qu'on a vue, plus religieuse aussi, puisque là aucun parti ultra-orthodoxe n'était composante de la coalition, ce qui d'ailleurs n'était plus arrivé depuis 83. Là, il va avoir recours aux ultra-orthodoxes à la fois séfarades et ashkenazes. N'empêche qu'encore une fois, en termes de chiffres, c'est lui et lui seul aujourd'hui qui peut et qui va, j'en suis convaincu, bâtir cette coalition. Quant à l'isolement international, là encore, je serais d'accord avec Ofer, mais franchement, peu chaud à Netanyahou. Genre, a priori, c'est pas son souci principal.
Après son coup d'éclat au Congrès américain.
Qui en a été l'illustration.
Netanyahou, vous pensez que ça l'a aidé terriblement dans cette élection-là?
Je pense que ça l'a aidé.
Je m'invite chez Obama sans son invitation et je vais au Congrès.
Moi, je pense qu'une partie, en tout cas, alors c'est très difficile à dire, évidemment, il faudrait maintenant faire une enquête sociologique post-électorale. électorale, mais je pense qu'une partie des Israéliens l'ont vu comme quelqu'un qui décidément allait très loin, certes, mais était un rempart extrêmement puissant si il était capable d'aller s'essuyer les pieds, pardonnez-moi l'expression, chez un allié qui décidément n'est pas aussi sympathique que ce que souhaitent les Israéliens. Un point, si vous le permettez, sur les députés arabes. Ils seront environ, ils seront 13, a priori 13 ou 14, ce qui est beaucoup. Mais attention, c'est seulement 2 sièges de plus que ce que faisaient jusqu'à présent les 3 à 4 partis arabes qui se détestent entre eux, dont certains sont laïcs, certains nationalistes, certains islamistes. Et pour passer la nouvelle barre, le seuil d'éligibilité de 3,25, ils se sont réunis. Mais c'est quelque chose de relativement...
De très fragile.
De fragile et artificiel, parce qu'on passe de 12 à 4, ou à 13 ou 14. C'est bien, c'est une légère progression qui correspond d'ailleurs à la progression démographique. Mais on ne peut pas considérer aujourd'hui qu'il y a une véritable révolution de ce côté-là, parce que de 12 à 13 ou de 12 à 14... C'est quand même pas un saut quantitatif extraordinaire.
De toute façon, ils ont averti qu'ils ne participeraient pas à aucune coalition.
Ni à l'une ni à l'autre.
Ni à même s'il devait y avoir un gouvernement de centre-gauche. Alors, le parti arabe, surprise, selon vous, à mesurer, Frédéric Ancel ? Non, surtout, alors peut-être faut-il, et aurons-nous le temps de le faire évidemment jusqu'à 9h moins le quart, aussi comprendre qui est ce faiseur de roi, hein, celui qu'on appelle le faiseur de roi, la Moshe Ralon, ancien du Likoud, dont on dit qu'il est plutôt centriste. Alors, Ofer Bornstein.
Moshe Kahlon est tout d'abord un personnage très intéressant dans la société israélienne. Il vient d'une famille très pauvre, originaire de Libye. Donc c'est un juif séfarade. Ça a été il était dans l'aile centriste du Likoud. Il a été un excellent ministre des communications et c'est lui qui a fait une réforme du monde des télécommunications en Israël, ce qui a permis aux Israéliens de profiter d'une baisse de prix dramatique dans leur consommation d'informations, surtout dans leur prix, les factures de leur mobile. C'est sur cet aura-là qu'il a surfé. Il a quitté le Likoud parce qu'il ne faisait plus confiance à M. Netanyahou, il a claqué la porte. Netanyahou l'avait fait des promesses aux dernières élections qu'il n'a pas tenues. D'ailleurs, Moshe Kahlon, encore hier matin, traitait Netanyahou de menteur et de quelqu'un qui ne tient pas ses engagements. Mais c'est vrai que c'est lui le faiseur de roi, parce que c'est le seul qui ne s'était pas engagé pendant la campagne à un camp ou à un autre. Il avait laissé la porte ouverte et apparemment aujourd'hui, déjà hier, les deux, Netanyahou comme Herzog, l'ont appelé, donc il est très sollicité et c'est apparemment... avec lui que Netanyahou va essayer de composer. Mais ça va être encore très compliqué.
Alors ça va être très compliqué parce que dans le quotidien à Haaretz, le journaliste Avika Eldar affirme que Moshe Kahlon ne pourra s'allier avec Netanyahou après que celui-ci a rejeté la solution des deux États. Et c'est pas le moindre des débats, ça, en l'occurrence.
Bon, c'était pas la priorité de Monsieur Kahlon. Presque personne n'a mis au devant de la scène pendant cette campagne le processus de paix. Netanyahou a imposé à sa façon la sécurité, la peur de l'Iran, la peur de Daesh, la peur de terrorisme. Les travaillistes ont essayé de proposer une alternative, l'espoir, l'avenir. Apparemment, pas seulement en Israël, mais on le voit bien en France aussi, et la peur et la crainte de l'autre mobilisent pas mal, alors que vendre de l'espoir, c'est plus compliqué, c'est moins palpable. Mais encore une fois, Kahlon n'a pas beaucoup traité du problème israélo-palestinien. C'est une droite modérée. C'était pas sa priorité pendant la campagne.
Une droite modérée, Frédéric Ancel, qui pourrait servir à Benjamin Netanyahou avec aussi, effectivement, l'autre volet important, notamment de la campagne de Moshe Kahlon, c'est à savoir la question des orientations sociales, de la politique sociale à mener, qui est très demandée. Hein, cela dit, en même temps, on le sait par les Israéliens aujourd'hui.
Oui, ce qui est intéressant, c'est que Netanyahou n'aura pas le choix, quoi qu'il arrive et quelle que soit la nature de sa coalition, que d'aller faire du social. Et plus seulement en termes de promesses, parce que Kahlon, effectivement...
Mais je ne vois pas comment il va pouvoir.
Alors, ça va être difficile, mais je pense que mathématiquement, il n'aura pas le choix, par exemple, d'aller chercher le parti orthodoxe séfarad Chass. Mm-hmm. Alors, Chass fait du social. En parenthèse, ils font surtout du social pour leurs propres étudiants d'institutions talmudiques et puis pour leur propre population. Enfin, en tout cas, c'est un parti qui pèse énormément sur le dossier social. Kahlon aussi. L'un plus l'autre, ça fait déjà 17 ou 18 députés. Une partie d'ailleurs du Likoud elle-même est au fond plus sociale que ce que... ou entretient des préoccupations sociales plus importantes que celles de Netanyahou lui-même, qui est un libéral ou un néolibéral, comme on le disait tout à l'heure. Donc de ce point de vue-là, c'est effectivement relativement intéressant. Par ailleurs, encore une fois, la gauche, et on peut le regretter, n'a pas réussi à capitaliser sur la misère sociale qui règne dans une partie de la population et sur l'absence de bonne redistribution des richesses. Hein, voilà plus de 12 ans, 13 ans maintenant, qu'Israël est à 4-5% de croissance par an. Or, le problème, c'est que face à la locomotive très puissante et toute neuve du high-tech israélien, à peu près 50% des produits israéliens aujourd'hui à l'exportation sont directement des produits de high-tech, et bien face à cela, à côté de cela, parallèlement à cela, vous avez toute une partie de la population qui sombre ou qui stagne autour du seuil de pauvreté. Et ça, ce qui est stupéfiant, c'est que ni la gauche modérée, ni la gauche plus radicale n'ont réussi, et c'est vrai depuis déjà 2-3 décennies, à, encore une fois, profiter électoralement de cette situation.
Écoutez ce que déclarait Benjamin Netanyahou lundi dernier, une des déclarations qui a marqué l'opinion internationale. Est-ce que, selon vous, elle a joué un rôle dans ces élections? Écoutez le Premier ministre israélien.
Nous continuerons de construire à Jérusalem, nous construirons des milliers de nouveaux logements, nous ne céderons pas, malgré toutes les pressions exercées sur nous, et nous continuerons à développer notre capitale éternelle. Nous voulons protéger l'unité de Jérusalem dans son intégralité. Nous continuerons à fortifier Jérusalem pour qu'on ne puisse la diviser et qu'elle reste unifiée pour toujours.
Voilà, Benjamin Netanyahou, c'était lundi. Je vous vois lever un sourcil puis l'autre au Feuerbachstein.
Tout d'abord, je partage
ça
pas
a payé
exactement.
En tout cas, ça ramène
oui,
des voix.
Oui, encore une fois, c'est un très bon orateur, il est très charismatique, il fait peur. Et il vend aux Israéliens ce qu'ils veulent entendre. Il leur a vendu la création d'un État palestinien lors de son mandat précédent, en leur disant la solution, c'est la solution des deux États. Et avant-hier, il a dit qu'il n'y aura plus d'État palestinien. Je ne sais pas comment Netanyahou va pouvoir se réhabiliter sur la scène internationale. On a vu ces derniers mois une vague...
Parce que la question des colonies... Frédéric Ancel, elle fait tâche, si j'ose dire, quand même, sur la question internationale, sur l'échange géopolitique.
C'est le moins qu'on puisse dire, mais au fond, est-ce que c'est pas positif pour un Netanyahou qui joue justement cette posture du « je suis tout seul, nous sommes tout seuls, tant pis, mais moi je vous défends, vous autres citoyens
justement, israéliens ». Justement, là-dessus, je voudrais une petite remarque par rapport au social, qui est tellement le schisme de la société. Frédéric a raison. D'un côté, une croissance que beaucoup de pays européens voudraient avoir, mais d'un autre côté, une redistribution impossible, presque inexistante, des richesses israéliennes. 40% des enfants israéliens sont dans la pauvreté. Un tiers des retraités israéliens sont dans la pauvreté. Pour un jeune couple aujourd'hui, il faut 27 ans de salaire pour pouvoir acquérir un appartement. Mais pourquoi? Parce que sa priorité nationale a été les colonies. Aujourd'hui, le prix de l'appartement est composé de 50% du prix, est composé du prix du terrain. Dans les colonies, les terrains sont gratuits et donc les gens sont allés. Il va falloir qu'il compose avec un monsieur Bennett de l'extrême droite, le colon. Le budget des colonies a augmenté de 900% l'année dernière. Donc comment il va pouvoir continuer à construire à Jérusalem dans les colonies et répondre aux besoins économiques et sociaux d'une grande majorité des Israéliens?
Je ne vois pas comment. Vous restez avec nous pour continuer sur ce sujet et nous rejoindra au téléphone Elie Barnavi à 8h15 d'ailleurs, seconde partie des matins, comme chaque jour, introduite par Brice Couturier. Bonjour Brice.
Bonjour Marc. Oui, on observe une tendance. Oui, vous me faites le signe que je me suis trompé dans mes pronostics. Bah écoutez, tous les instituts de sondage israéliens se sont trompés avec moi. Je ne suis pas tout seul à avoir prédit une victoire de la gauche et à m'être planté. on observe, ma question c'est plutôt d'ordre international, on observe une espèce de sentiment de délégitimation d'Israël aussi bien en Europe qu'en Amérique. Est-ce que la première tâche d'un gouvernement israélien, quel qu'il soit, ne sera-t-il pas de rompre l'isolement international où Israël est en train de tomber?
Voilà, réponse tout à l'heure à 8h15 avec nos invités au Feuerbachstein, Frédéric Ancel et je vous le rappelle au téléphone, nous rejoindra Elie Barnavi depuis Tel Aviv.